Leclerc.
Saint-Nazaire, Bayeux, Aubenas. Qu'est-ce que tu fais ?
Je vérifie si le Festival Culturissimo des espaces culturels Leclerc passe près de chez nous.
Il y a des lectures, des concerts et des lectures musicales gratuites.
Et alors ? Le festival passe à Blois ?
Bien sûr. David Fuenquinos y fait une lecture.
Cool ! On y va ?
Culturissimo, c'est le Festival des espaces culturels Leclerc avec près de 90 événements gratuits partout en France. Demandez votre invitation en magasin dans la limite des places disponibles. Magasins participants et événements sur www.culturissimo.leclerc.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
En 1814, cette année tellement essentielle dans l'histoire de France, on est dans la nuit du 6 au 7 avril dans l'hôtel Saint-Florentin. L'hôtel Saint-Florentin, c'est la demeure à Paris de Talleyrand, bien entendu, et c'est le tsar de Russie, Alexandre Ier, qui est là dans le grand salon et qui s'impatiente, le retourne. Il est déjà tard dans la nuit, mais le tsar sait qu'il doit attendre parce qu'une nouvelle, une grande nouvelle, doit arriver d'un moment à l'autre. Il est 3 heures du matin quand une berline finit par entrer dans la cour du bel hôtel. On est au coin de l'actuelle place de la Concorde, vous savez. La berline arrive de Fontainebleau et en descendent trois hommes. Il y a la Caulaincourt, tellement proche de l'empereur Napoléon Ier. Il y a le maréchal MacDonald et puis le maréchal Ney. Tous les trois entrent dans le grand salon. Ils se présentent au tsar et à Talleyrand, qui est là juste à côté. Et ils présentent ce fameux document que les deux hommes attendaient. Et le document, c'est l'abdication de l'empereur. C'est l'abdication inconditionnelle de Napoléon Bonaparte. Parmi ces trois émissaires qui se présentent avec le précieux document, il en est un qui a pris l'ascendant sur les deux autres, c'est le maréchal Ney. Il n'est pas innocent dans l'abdication de l'empereur, le maréchal Ney. Il est le premier qui ait pressé Napoléon à abdiquer. Vous savez que Napoléon se disait qu'il pouvait peut-être encore tenir. Il croyait à un dernier sursaut grâce à l'armée de la Loire, notamment, qui n'avait pas donné tout ce qu'elle aurait pu donner. Mais le maréchal Ney a réussi à convaincre tous les maréchaux et ils ont ensemble convaincu l'empereur. Et voilà que maintenant, il est donc face au tsar avec ce document dans ce petit matin du 7 avril 1814. Ney n'est pas tout à fait désintéressé puisque avant même l'abdication de l'empereur, le maréchal avait négocié avec les personnalités proches des milieux royalistes pour essayer de sauver, j'allais dire sauver sa peau, sauver son rang en tout cas. Et ça fonctionne. Le 20 avril, Napoléon quitte Fontainebleau. Vous savez qu'il va prendre la direction de l'île d'Elbe. Et Ney attend celui qui va le remplacer. Celui qui va le remplacer, c'est le frère de Louis XVI, celui qui devient le roi Louis XVIII et qui arrive à Paris 9 jours plus tard. Quand Louis XVIII arrive à Paris, il est plein d'une volonté d'apaisement. Son intérêt à lui, évidemment, est de faire en sorte que la transition se passe au mieux. Le monarque a promis l'oubli et le pardon, et tout ça arrange bien les affaires de Ney, qui va se faire pardonner. D'ailleurs, quand le roi Louis XVIII, pour la première fois, rencontre le maréchal, il se montre très aimable et même gracieux. Il va jusqu'à poser la main sur l'épaule du maréchal, puisque Ney reste maréchal, il garde son titre, et Louis lui déclare qu'il le considère comme une des plus fortes colonnes de l'État. Frédéric Hulot a fait paraître une biographie du maréchal Ney et nous dit « Ney était conquis et se découvrait fervent royaliste. Les marques de la faveur royale ne tardèrent pas à pleuvoir sur lui comme sur ses camarades. Il reçut la croix de Saint-Louis ainsi qu'un siège à la Chambre des Pairs. En outre, le 20 mai, il fut promu au commandement du corps royal des cuirassiers, dragons, chasseurs et chevaux légers lanciers de France. Ça faisait de lui, en cas de conflit, le chef de toute la cavalerie royale. » Le 26 juin, il devenait gouverneur de la 6e division militaire de Besançon. Un jour, Ney présenta ses enfants au monarque. Le roi avait daigné bénir les enfants du maréchal en leur disant « Mes petits amis, soyez de braves gens comme votre père. Il vous donne le bon exemple. » Tout va pour le mieux. Ney va néanmoins se faire pas mal d'ennemis et des deux côtés. Il y a tous ces anciens coreligionnaires bonapartistes qui voient évidemment son attitude comme une véritable trahison. Pour eux, Ney devait tout à la Révolution et à l'Empire. Il venait du reste d'un milieu très modeste puisque son père était tonnelier en Lorraine à Sarre-Louis. Michel Ney devait cette extraordinaire ascension qui avait été la sienne et qui l'avait conduit jusqu'à devenir maréchal de France, d'abord à la Révolution, à la République, et puis surtout à l'empereur qu'il avait contribué à voir partir. De l'autre côté, il y avait dans les rangs royaux un certain nombre de personnes qui trouvaient quand même un peu fort que cet ancien ennemi de la monarchie puisse se balader maintenant avec aisance dans les ministères et les salons royaux jusqu'à baiser la main du roi et à lui faire bénir ses propres enfants. Ce fils de tonnelier, pour eux, n'avait strictement rien à faire ici. Et Ney, évidemment, souffrait de ce regard de cette froideur qu'il lisait dans le regard des courtisans de Louis XVIII. On l'a vu fréquenter de moins en moins les Tuileries et s'absenter même de la capitale. Et puis, disons-le, c'est vrai qu'il appréciait Louis XVIII, mais ce quotidien fait de revues, de défilés et surtout de beaucoup de mondanité, ce quotidien l'ennuyait.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le maréchal Ney se dit qu'il serait peut-être temps tout simplement de prendre sa retraite. Il a 45 ans à ce moment-là. Il a été usé littéralement par les 25 dernières années où il a tellement fait la guerre. Dans les premiers jours de l'année 1815, il demande un congé de plusieurs mois et le voilà qui se retire dans sa demeure d'Eure-et-Loir. Sauf qu'au soir du 6 mars 1815, un officier se présente chez lui avec un message de la plus haute importance. Le message vient du ministre de la guerre. C'est une lettre qui enjoint le maréchal de revenir le plus vite possible à Paris et on ne lui donne pas la raison. Le 7 mars au soir, Ney arrive dans son hôtel de la rue de Lille et c'est son notaire qui est là et qui va lui apprendre la nouvelle. La nouvelle, bah, vous l'avez deviné, c'est que Napoléon Bonaparte a débarqué sur la côte méridionale de la France. Il a réussi à fausser compagnie aux Anglais à l'île d'Elbe. Le voilà qui a débarqué à Golfe-Juan et qui remonte maintenant, qui suit la vallée du Rhône, qui remonte vers Paris. Ça fait déjà une semaine qu'il est en route. Et Ney se dit que les choses là sont catastrophiques. On le voit appuyer sa tête sur le marbre d'une cheminée. « Ah, mon Dieu, dit-il, mais quel malheur! Quelle chose affreuse !» Avouez que ça ne manque pas de sel, quand même, de la part d'un homme qui devait sa dignité de maréchal à l'empereur. Il s'interroge, Ney. Selon les dernières nouvelles, Bonaparte serait déjà à Grenoble. Mais qui pourrait maintenant l'arrêter? Ben, qui? Lui, évidemment. À 11h du soir, il demande audience au roi, qui le reçoit, bien entendu. Ney propose à Louis XVIII de prendre la tête de ses unités à Besançon et d'aller arrêter l'usurpateur. Il déclare au roi « Je me saisirai de lui, sire, je vous le promets, et je vous l'amènerai dans une cage de fer. » C'est Herbert von Karajan qui dirigeait le philharmonique de Berlin dans cette attaque de la symphonie héroïque de Beethoven.
Vous écoutez Radio Classique.
Ah, cette expression, je vous l'amènerai dans une cage de fer. Cette expression a quand même un peu surpris le roi Louis XVIII, pour ne pas dire choqué le roi. Et une fois le maréchal reparti, le monarque a déclaré « Enfin, une cage de fer, mais quelle expression ! Emmener un ancien camarade comme une bête fauve dans une cage de fer, je ne lui en demandais pas tant. C'est un singulier petit serin qu'il m'amène là. » Le roi Louis XVIII ne manquait jamais d'humour et il avait une certaine lucidité sur les gens et les choses. Le 10 mars, Ney arrive donc dans sa division militaire. Il est à Besançon, il demande à son second quel est l'état d'esprit des unités et le second lui dit « J'ai toute confiance dans leurs officiers, mais pour ce qui est des hommes, alors là, c'est autre chose. » Ney ne prend pas cet avis en compte. Dès le lendemain, il rassemble 6000 hommes et le voilà qui fond en direction de Grenoble. Il a la volonté de contourner les troupes de Napoléon. Napoléon a déjà 10 000 hommes avec lui. Il a réussi à réunir déjà tout ce monde-là. Et son intention, c'est d'attaquer les nouveaux fidèles de cet empereur fraîchement débarqué, de les attaquer sur leur flanc droit. Ney en est persuadé, si le sang coule, Napoléon ne sera plus jamais empereur. Il donnera l'impression de n'être qu'une sorte de bandit. Ney souhaite donc la confrontation. Jusqu'ici, Napoléon s'est vu rallier ses milliers de soldats sans avoir à coup férir. Il n'a pas tiré une seule cartouche. Les précédents régiments se sont tous rangés derrière lui uniquement en le voyant. Le 12 mars, Ney s'arrête à Lons-le-Saunier. Le maréchal décide d'attendre les pièces d'artillerie qui doivent arriver le lendemain d'Ausone. Seulement Ney l'ignore, mais la ville de Mâcon s'est retournée, elle aussi, si vous voulez. Il y a toute une foule bonapartiste qui a saisi les canons, les fameux canons qu'attendait Ney, qui les a jetés dans un canal. « On fera cadeau de cette artillerie-là au petit caporal quand il arrivera !» crie la foule. Une mauvaise nouvelle pour les royalistes, pour les personnes fidèles au gouvernement de Paris. Les mauvaises nouvelles se succèdent. Napoléon maintenant n'est plus qu'à 50 km. La nuit du 13 au 14 mars tombe sur la ville de Lons-le-Saunier, a écrit André Castelot. Cette nuit fut décisive. Le maréchal se glisse dans son lit de l'auberge La Pomme d'Or. Il ne dormira point. À plusieurs reprises, son aide-de-camp, le Vavasseur, pénètre dans la pièce porteur de nouvelles alarmantes. De tous les côtés, les troupes se rallient aux revenants de l'île d'Elbe. Déjà à Dijon, le drapeau tricolore est arboré. À chacune de ces nouvelles, le Vavasseur trouve le maréchal trépignant dans son lit. Et au matin du mardi 14 mars, le maréchal Bertrand se présente à Ney, porteur d'une lettre de Napoléon. Ney s'isole dans sa chambre. Il décachète la lettre et voilà ce qu'il peut lire. C'est Napoléon, bien sûr, qui a écrit « Mon cousin, mon major général vous expédie l'ordre de marche. Je ne doute pas qu'au moment où vous aurez appris mon arrivée à Lyon, vous n'ayez fait reprendre à vos troupes le drapeau tricolore. Exécutez les ordres de Bertrand et venez me rejoindre à Châlons. Je vous recevrai comme au lendemain de la bataille de la Moscova. » Autrement dit, avec le plus grand pardon possible, et Ney est tout décontenancé. Napoléon continue de le considérer comme son maréchal. Il décide de renvoyer Bertrand sans lui indiquer sa décision. Et dans la matinée, c'est le préfet de l'Ain qui vient rencontrer le maréchal Ney et qui lui dresse un tableau du département absolument catastrophique, avec partout les insignes royaux mis à bas au profit de la cocarde tricolore qu'on agite alors que partout les villes crient « Vive l'empereur !» et Ney ne sait plus où donner de la tête. Jusque-là, il avait affiché un soutien indéfectible au roi Louis XVIII. Seulement, cette nuit l'a un peu chamboulé, disons les choses. Face à cet élan d'adhésion à Napoléon, Michel Ney n'est plus vraiment certain que ses propres troupes accepteront de lui obéir s'il devait leur ordonner d'affronter Bonaparte sur le champ de bataille. Ney décide de rassembler ses troupes le 15 mars, roulement de tambour, on bat le rappel. Le maréchal apparaît et voilà ce qu'il dit. « Soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue. La dynastie légitime que la nation française a adoptée va remonter sur le trône. C'est à l'empereur Napoléon, notre souverain, qu'il appartient de régner sur notre beau pays. » Vous avez bien entendu, c'est un peu fort. Hein. Et les soldats, évidemment, sont ravis. Vive l'empereur ! On sort des sacs les insignes tricolores. Quelques officiers se présentent au maréchal et cassent leur épée parce qu'ils, eux, n'ont pas l'intention de se rallier à Napoléon. Mais les soldats, ceux-là se retourneront dans leur foyer. Mais les soldats, eux, sont très heureux. Et ces quelques fidèles au roi ne pèsent pas lourd face à la fièvre bonapartiste qui s'est emparée du pays. Ney désormais prend la direction d'Auxerre, où ses troupes doivent rencontrer les troupes de Napoléon. L'entrevue entre les deux hommes se tint le 18 au matin et fut dans l'ensemble assez orageuse, nous dit Frédéric Hulot. Elle se déroula hors de la présence de témoins, mais les aides de camp et généraux demeurés dans la chambre voisine entendirent les éclats de voix prouvant suffisamment que le dialogue manquait d'aménité. Ney trouva l'empereur vieilli, bouffi de mauvaise graisse, n'ayant plus rien du chef dynamique qu'il avait connu et estimé. De son côté, l'empereur, qui remâchait ses griefs, commença par se montrer distant. À la fin, Napoléon voulut faire preuve d'amabilité et s'enquit de l'importance du corps de Ney. En tout cas, le maréchal sortit du salon bien convaincu que, malgré ses bonnes paroles, Napoléon n'avait ni oublié ni pardonné la scène de Fontainebleau un an plus tôt. C'est le 18 mars qu'il apprend qu'on apprend que le pays entier est au courant de la volte-face du maréchal Ney, ce qui évidemment est une très mauvaise nouvelle pour Louis XVIII, hein, qui aurait déclaré « Il n'y a donc plus d'honneur ». Et le lendemain, vous savez que c'est au tour de Louis XVIII de reprendre le chemin de l'exil. Encore Ludwig van Beethoven avec cette marche du premier acte de Fidelio. La Staatskapelle de Berlin était sous la direction de Daniel Barenboim.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et Napoléon est à Paris, ça y est, 20 mars 1815. Ney ne va pas s'éterniser à ses côtés, il rentre chez lui où sa femme l'attend. Elle ne comprend pas du tout ce qu'a fait son mari. Ce retournement soudain a fait d'elle la risée de tout le monde jusqu'au départ du roi quelques heures plus tôt. De son côté, Napoléon apprend en arrivant à Paris quels ont été les propos de son maréchal à son égard. Le ramener dans une cage de fer. Napoléon sourit, ou plutôt, il feint de sourire, mais déjà n'était assez discrédité dans son esprit. Là, maintenant, il n'y a plus grand-chose à sauver. L'empereur va néanmoins conserver le maréchal à ses côtés. Après tout, il est loin d'être le seul à avoir retourné sa veste un certain nombre de fois. Napoléon va même donner à Ney une mission. Il est renvoyé dans le nord de la France pour inspecter les places fortes militaires. Et il est... revenu de sa charge à la fin du mois d'avril, le maréchal Ney, et ne reste pas dans son hôtel de la rue de Lille. Son intention à lui, c'est d'être le plus loin possible de Paris. Hein. Il va repartir en campagne pour mettre de la distance entre Paris et lui. Il n'avait pas vu Napoléon depuis 3 mois à ce moment-là, quand il reçoit une lettre, on est donc le 11 juin, ça fait même 3 mois et demi, et la lettre annonce la fameuse campagne de Belgique, celle qui va conduire tout le monde à Waterloo. Elle est écrite d'étrange façon, puisqu'il est précisé que s'il veut se trouver aux premières batailles, qu'il se rende le 14 à Avesnes, où sera mon quartier général. Là, Napoléon devient vraiment très ambigu. Ney se dit que c'est le moment de faire ses preuves. Le 14 juin, il est donc bien au quartier général de Napoléon, qui est satisfait de sa présence et de pouvoir compter sur les officiers expérimentés qui entourent Ney. Seulement, celui-ci doit attendre près d'une journée avant qu'on lui attribue un commandement. Le 15, on lui confie un corps d'armée de 22 000 hommes et l'ordre de reprendre le carrefour des quatre bras occupé par le duc de Wellington lui est enfin donné. C'est une mission, vous savez, qu'il accomplit avec succès. Le 17 juin, l'officier anglais est obligé, le chef anglais est obligé de battre en retraite et il s'installe du côté de Waterloo, donc.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et Ney sait bien que c'est l'avenir de l'Empire qui se joue. Et quand je dis l'avenir de l'Empire, c'est aussi le sien, bien entendu. Toute la journée du 18 juin, il se bat en faisant charge de cavalerie sur charge vers la fin de la journée, alors que la bataille est en train de tourner mal pour les Français. Ney charge à la tête de l'infanterie en s'écriant « Venez voir comment meurt un maréchal de France !» Eh oui, sauf que au soir de la bataille, il n'est toujours pas mort et qu'il est contraint de battre en retraite avec ce qu'il lui reste de troupes, il ne verra plus jamais Napoléon. De retour à Paris, il se rend auprès de Fouché, qui est ministre de la police et qui lui propose de lui donner un nouveau passeport pour essayer de filer vers les États-Unis. Mais Ney décide de ne pas quitter la France. Il est persuadé, comme il le dit lui-même, hein, il est persuadé que sa renommée militaire le sauvera. Ça, c'est peut-être un peu présomptueux. Il se rend aux eaux de Saint-Alban, on n'est pas loin de Roanne, au début du mois de juillet, mais à la fin de ce mois, une ordonnance royale contient le nom d'une vingtaine d'hommes à conduire devant le conseil de guerre. Et parmi ces 20 hommes, il y a le maréchal Ney, évidemment, qui est arrêté au début du mois d'août, qui est emprisonné à la Conciergerie, puis à la prison du Luxembourg. C'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission aujourd'hui et qui, lorsqu'il travaillait au palais du Luxembourg, a occupé un petit bureau qui était justement le cachot, hein, qui était la cellule où l'on avait installé le maréchal Ney avant qu'il ne soit jugé par la Chambre des Pairs et non pas par un conseil de guerre. C'est en tout cas ce que lui voudrait, les choses sont un peu longues. Il faut attendre le 9 novembre 1815 pour que le maréchal Ney puisse enfin comparaître devant la Chambre. Durant près d'un mois, les séances se succèdent. Seulement, les pairs, à une très grande majorité, sont des royalistes. Qu'est-ce que je dis ? Ce sont même des ultras, comme on disait, c'est-à-dire des gens ultra fidèles aux Bourbons. Le 6 décembre, ils votent la mort. Ney apprend la sentence dans un grand calme. Sa femme va essayer d'aller plaider sa cause devant le souverain, mais elle n'arrivera à rien. Et le 7 décembre 1815, à 8h30 du matin, on le fait sortir de la prison du Luxembourg. La voiture s'arrête rue de l'Observatoire, là où se trouve le peloton d'exécution. Ney a refusé qu'on lui bande les yeux et il a déclaré « Camarade, tirez !» Et viser au cœur, viser juste, aurait dit le maréchal Ney. Est-ce que le maréchal Ney est mort ? Est-ce qu'il a bien été exécuté ? Vous savez que certains prétendent qu'il aurait en vérité été substitué et qu'il aurait pu survivre à cette exécution. Ça nous entraînerait sur un tout autre terrain.
Vous écoutez Radio Classique.